Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins.
Our guest tonight is Charles Chaplin.
May I interrupt? Just call me Charles.
Charlot est un personnage mythique qui domine chacune des aventures auxquelles il est mêlé. Pour des centaines de millions d'hommes sur la planète, Charlot est un héros, comme l'était pour d'autres civilisations Ulysse ou Roland le Preux. Aucune situation ne le laisse jamais désemparé. Il a une solution à tout, bien que le monde, et plus encore peut-être celui des objets que celui des hommes, ne soit pas fait pour lui. Le mythe Charlot n'a plus de secret pour l'équipe des Nouveaux Chemins qui a préparé cette semaine Lucie Tardy, Antoine Ravon, Colomba Grossi et Marianne Chassor, avec Midia Portis-Guérin cette semaine à la réalisation, Dalia à la prise de son et Géraldine Mosna-Savoie que vous retrouverez comme tous les jours à 10h51 pour ces 2 minutes papillon. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Tout à l'heure je parlerai du corps accidenté, bouleversement identitaire et reconstruction de soi. C'est un essai de Peggy Tessier et c'est paru au PUF.
Rendez-vous à 10h51. À quel monde appartient Charlie Chaplin ? À celui de la production hollywoodienne ? Sans doute, mais il en a payé le prix cher, tour à tour célébré puis rejeté. À celui du cinéma américain ? Certes, mais il est né à Londres le 16 avril 1889 et ne demandera jamais la nationalité américaine, ce qui conduira à son exclusion et son installation en Suisse en 1953, où il restera jusqu'à sa mort en 1977. À l'univers du burlesque ? Oui, lui qui connaît son premier succès à 5 ans, le jour où il mime sa propre mère, artiste de musical ce jour-là atteinte d'une extinction de voix, et qui à 9 ans danse en sabots et imite des animaux. Mais son monde est pourtant si différent des traditionnels slapsticks et de son contemporain Buster Keaton. Au monde des pantomimes ? S'il excelle en la matière, on lui reproche pourtant son excès de sentimentalisme. Chez lui, point de pantin, et même les marionnettes semblent être dotées d'une âme. À l'univers des révoltés, des indignés, des dénonciateurs d'injustice, c'est vrai, mais Charlot est plus subtil qu'un doigt accusateur et il a trop de talent et d'humour pour se contenter de lever le poing. Non, Charlie Chaplin est bel et bien de notre monde, celui de l'existence qui oscille entre la pesanteur tragique et la pesanteur comique. Celui du funambule qui se demande de quel côté il va tomber, puis se souvient qu'il a le choix aussi de continuer à marcher la tête haute et de conjurer l'anxiété grâce à un peu de gaieté. Mais Charlie n'est pas Charlot, et Charlot bien plus qu'une canne et un chapeau. Réalisateur atypique, conteur hors pair, acteur novateur et vrai philosophe, en ceci qu'aux certitudes il préfère le doute et que rien n'est plus malmené dans ses films que l'évidence. Alors les temps modernes, le dictateur, l'opinion publique, le kid, les lumières de la ville et d'autres encore, autant de films qui constitueront notre quotidien cette semaine avec demain le philosophe Guillaume Leblanc qui vous présentera la critique sociale d'un infatigable, mercredi Olivier Mongin qui interrogera les différences et les similitudes entre Chaplin et Buster Keaton et jeudi Stéphane Goudet qui vous contera le passage du corps à la parole chez Charlot. Mais aujourd'hui, c'est le philosophe Marc Cerisuello, qui enseigne le cinéma et l'esthétique à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, qui vient vous faire entrer dans la danse ambivalente de l'opinion publique. Bonjour à vous.
Bonjour Adèle.
Au public. Afin qu'il n'y ait pas de malentendu, je préfère prévenir que je n'apparais pas dans ce film. C'est le premier drame que j'ai écrit et réalisé. Charles Chaplin.
«
un petit village quelque part en France.
Marc s'est réjoui lui aussi. Charlie Chaplin, en 1923, lorsque sort L'Opinion publique, prend soin de signaler qu'il est absent du film, c'est donc qu'il est déjà extrêmement connu.
Ah, il est plus que connu. Il est l'homme le plus célèbre du monde. On peut même dire que jamais personne ne sera aussi célèbre que Charlie Chaplin.
C'est
la célébrité absolue. C'est-à-dire qu'il est il est le signe du cinéma. Il accompagne le cinéma. Le cinéma n'a pas de concurrence à cette époque-là. Donc, des dizaines de millions de spectateurs vont au cinéma chaque soir. Et Charlie Chaplin est connu dans tous les pays du monde. C'est un des hommes les plus riches du monde. Il a une totale indépendance artistique. C'est un succès absolument fulgurant, et c'est pas simplement un succès qui se monnaie, même s'il est effectivement très riche. C'est un véritable succès populaire, symbolique. Il incarne réellement le personnage de Charlot, de Charlie, de Trump. C'est le vecteur d'identification des peuples. Les pauvres sont en général bien plus nombreux que les riches, et donc tout le monde aime Chaplin, tout le monde s'identifie à cette figure. Et effectivement, oui, le tournage de L'Opinion publique, il accomplit son premier voyage de retour à Londres. Il va revoir sa mère. Charlie vient revoir maman. Il va la ramener d'ailleurs avec lui. C'était une femme qui avait des vrais problèmes d'ordre psychiatrique. Elle était folle, hein, elle était psychotique. Et quand il arrive en France, il y a des centaines de milliers de personnes qui accueillent Chaplin. Tout Londres est dehors quand il arrive à Londres. Il y a 2 millions de personnes. C'est hallucinant.
Il est connu pourquoi ? Puisqu'avant 1923, il a fait énormément de ce qu'on appellerait aujourd'hui des courts-métrages. Hein. Dès 1914, il tourne 35 films.
Voilà. Alors on a un cas tout à fait intéressant, parce que il accompagne vraiment le point de départ du cinéma américain à partir de la Première Guerre mondiale. Le cinéma, petit topo rapide mais qui me semble utile, jusqu'en 14, le cinéma français est le plus grand cinéma du monde. À partir de la Première Guerre mondiale, c'est pour d'évidentes raisons, le cinéma américain va prendre la place du cinéma français. Et à partir de 1918, c'est le cinéma américain qui est le plus qui a l'imperium, on va dire, et qui va le garder jusqu'à aujourd'hui. Et Chaplin accompagne exactement. Il y a une occasion propice. Il arrive exactement au bon moment à Hollywood. Il est en tournée avec la troupe de Carnot, donc des troupes de mimes extrêmement célèbres. Déjà, il est déjà très connu pour cela, et il a l'occasion de travailler avec Max Sennett. Et c'est le moment, 1914, où le train électrique se met véritablement en marche. Il y a des innovations tous les mois, à la fois dans la production populaire publique, mais également des innovations techniques. Les films vont être de plus en plus longs. En quelques années, tout ça va se généraliser. C'est le moment de Griffiths, Naissance d'une nation en 1915, Intolérance en 1916, Instant Western, les débuts de John Ford, Cecil B. 2000. C'est vraiment un moment capital dans l'histoire du cinéma. Les Français, d'ailleurs, le reconnaîtront, vont être très sport. Hein. Donc Louis de Luc ne va pas, alors qu'il est lui-même cinéaste, mais il est surtout le premier grand critique, on peut dire, hollywoodophile. C'est celui
à qui lui consacrer un livre entier, je crois, à Chaplin.
Mais bien sûr, mais au cinéma américain, toutes les semaines. Hein, c'est quelqu'un qui va dire que voilà, il s'est passé quelque chose entre 1914 et 1918, c'est-à-dire que la main est réellement passée de ce côté-là. Alors après, il y aura d'autres grands cinémas, comme le cinéma allemand après la guerre, mais on voit bien que ce qui s'est passé là, entre 14 et 18, est tout à fait essentiel. C'est vraiment le début du travail de Chaplin. Il travaille pour Max Sennett.
Le producteur hollywoodien.
Le producteur de la Keystone, c'est-à-dire le monsieur slapstick, c'est-à-dire monsieur burlesque, hein, en français. Et il tourne 35 films, il en réalise une vingtaine.
Du coup, c'est la naissance de Charlot en 1914, mais est-ce que c'est aussi la naissance de Chaplin réalisateur ?
Tout ça se fait en l'espace de quelques mois. Il commence à réaliser des films. Charlot et le chronomètre, c'est son premier film réalisé par lui. Et après, petit à petit, il va presque tous les réaliser, l'espace, encore une fois, de quelques mois. Il est très intéressant de noter qu'il donc ce sont des films d'une bobine de 10 minutes ou un peu moins. Il va tout de suite changer de format dès l'année suivante quand il va signer un premier grand contrat avec le studio de Chicago qui s'appelle SNA. SNA, c'était Spoor et Anderson, S et A, SNA, et donc ça s'écrit E-2-S-A-N-A-Y. Parce qu'on tournait à Chicago, comme dans le New Jersey à l'époque encore. Et puis le studio de Chicago va se dédoubler en Californie, et Chaplin détestait, à juste titre d'ailleurs, le climat de Chicago. Et donc les productions SNA auront souvent lieu, notamment à la fin, en Californie. Et là, il ne réalise que 14 films de bobines. Donc,
Des films qui durent combien de temps? Parce que là, ça paraît inconcevable de réaliser 14 films.
Il tourne tout le temps.
Durent combien de temps?
Les films durent entre 10 et 20 minutes, au grand maximum. Hein, c'est le format du deux bobines. On multiplie quand même par deux la durée des films. Et là, il commence à faire vraiment des films très intéressants chez SNA. C'est le début de la... C'est plus intéressant que le... Alors là, après, ce sont des questions de goût. Il y a des gens qui préfèrent le Charlot du début, à juste Charlot, titre. Ouais. Mais on commence à avoir des films comme Charlot figurant, qui est le premier film qu'il réalise pour ce studio, qui est une sorte de film sur le cinéma. Il en fera un autre qui s'appelle Charlot fait du ciné un petit peu plus tard. Et c'est là qu'il impose The Trump, c'est-à-dire son nom. Il y a Charlie et The Trump qui sont les noms de Charlie Chaplin pour le grand public, et il y a le premier film qui s'appelle The Tramp, le vagabond, et qui impose véritablement l'image de Chaplin. Et à partir de là, c'est un succès absolument sidérant, et dès l'année suivante, il est l'un des hommes les plus riches du monde.
Là, on est en quelle année, du coup?
1916, on est en pleine première guerre mondiale. Il a un contrat de 670 000 dollars par an. Il faut multiplier en gros par 35. Il gagne 25 millions de dollars par an quand un ouvrier en gagne 10 par semaine. C'est absolument considérable. Ça, il faut avoir ces masses en tête, d'autant que l'année suivante, il va encore changer de studio, et ça va être ça. Alors, il est très attaché à cette période de la Mutual, qui pour lui a été, c'est le moment où il commence vraiment à travailler avec, même si certains des collaborateurs étaient déjà là, c'est le grand début de la collaboration avec Edna Purviance, qui va être l'actrice de l'opinion publique. L'opinion publique en 23 est le dernier film dans lequel Edna apparaît chez Chaplin, mais ils ont fait 35 films ensemble. Ça va être sa très grande collaboratrice, et toute cette période, donc justement, elle a commencé en 15, mais disons de 16 à 23, c'est le moment de la grande collaboration entre les deux. Et il franchit encore un cap en 1917, tout va très très vite, entre 17 et 22, c'est la période First National, et là il met de plus en plus de temps à faire des films, mais bon, ça reste encore, il en fait 10 en 5 ans. Voilà. Et là, ce sont des films qui deviennent des films beaucoup plus importants. Ça, on aboutira avec le premier véritable long métrage de Chaplin, Le Kid.
Le Kid.
Hein, qui dure à peu près 1h10. Et c'est, donc là, c'est du 6 bobines. On est déjà dans l'ordre du long métrage. Et Chaplin a réellement, maîtrise déjà, c'est le moins qu'on puisse dire, tout à fait son tempo particulier. Il construit des studios, il fait absolument ce qu'il veut. C'est-à-dire que Chaplin est quelqu'un qui n'écrivait pas. Donc, c'est-à-dire, c'est assez fascinant.
Enfin, il n'écrivait pas, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de scénario préétabli à l'avance au moment où il tourne.
Oui, mais c'est...
Il le revendique, il dit je fonctionne à l'instinct et j'ai besoin de pouvoir construire un plan par plan.
Oui, mais vous imaginez ce que ça
représente.
C'est Jean-Luc Godard en a souvent parlé, parce que quand, à une époque, quand il est revenu au cinéma, qu'il jouait la vidéo contre le cinéma, enfin, c'était une conception de l'image très, très intéressante, et il critiquait l'écrit à ce moment-là. Il disait dans le scénario du film Passion, Le scénario vient après. Il a fait le scénario du film Passion après le film Passion. Bon, ça peut sembler amusant ou paradoxal, mais il a en ligne de mire effectivement ce qui se faisait à ce moment-là dans le cinéma et notamment chez Chaplin. C'est-à-dire que Chaplin arrivait au studio et il savait absolument pas ce qu'il allait se passer. Il improvisait des pantomimes, il faisait 50 fois la même scène, il changeait complètement l'ordre de l'histoire en plein milieu du tournage. Quand il n'avait pas d'idée, il rentrait chez lui, il passait 3-4 jours à se détendre ou à quitter le tournage. C'est inconcevable. Là encore, personne n'a jamais été aussi libre.
Charlie Chaplin était un travailleur acharné. Il travaillait toujours seul, il n'écrivait pas de scénario, il n'avait aucune espèce de scénario écrit d'avance, ni découpage, ni dialogue, ni rien du tout. Du reste, il n'y avait pas à ce moment-là de dialogue, mais enfin, il improvisait la plupart du temps les scènes jour après jour. Mais il y avait longtemps réfléchi avant, et quelquefois, quand les scènes ne marchaient pas, il arrêtait complètement la production et recommençait le travail 8 jours après. Un jour, nous faisions l'opinion publique, il y avait environ 150 figurants sur le décor, et une grande scène avec Adolphe Manjou et Edna Provence. Cette scène n'avait pas l'air de marcher très bien. Alors Charlie Chaplin voyait ça tout de suite. Immédiatement, il faisait tout arrêter. Il m'a envoyé son chauffeur, me dit « Il vous demande ». Alors je suis parti à la porte, j'ai trouvé Charlie dans sa voiture, qui me dit « Lim, nous partons ». « Comment nous partons ?»« Oui, laisse tomber, c'est mauvais, ce que je fais là en ce moment-ci, c'est très très mauvais, nous n'en voulons pas, il faut envoyer tout le monde ». J'ai dit « Moi, pas envoyer tout de même 150 personnes comme ça ».« Si, vous les renvoyez tous, les 150, ils reviendront quand nous recommencerons ». J'ai mis tout le monde à la porte, on leur a payé leur journée de travail, et nous avons fermé les portes du studio. Et nous sommes partis à la plage, à Santa Monica Beach, et là, nous sommes restés 5 ou 6 jours ensemble à réfléchir sur la scène en question. Au bout de 5 ou 6 jours, Charlie Chaplin était content, nous sommes revenus dans la voiture, il m'a dit « Maintenant, voyez, nous tenons bien la chose, et on peut continuer ». On a rappelé les gens, et on a recommencé la chose, et que c'est la seule scène qui soit restée du film. Toutes les scènes qu'on avait tournées avant ont été supprimées, coupées et jetées au panier.
Mon film, L'opinion publique, n'a pas eu de succès aux États-Unis parce que la fin n'apportait aucune espérance, et aussi parce qu'il décrivait la vie telle qu'elle est. Au contraire, le public aime que le protagoniste échappe à une mort inévitable et que la femme revienne finalement à lui pour mener une vie heureuse. En opposition à cela, l'opinion publique est presque une tragédie. J'aime la tragédie. Et je l'aime parce qu'à la base, il y a toujours quelque chose de beau. Et pour moi, est beau ce qui nous est le plus précieux dans l'art et dans la vie. Cela vaut la peine de s'occuper de comédie lorsque s'y trouve ce point de départ de beauté. Mais c'est une chose si difficile.
Et donc, contre toute attente, quand l'opinion publique paraît en 1923, le film rencontre un succès critique, mais ne rencontre pas l'approbation du public. Est-ce que vous expliquez ça, Marc Cerisuello, comme le fait Chaplin lui-même, en remettant ça sur le compte du caractère tragique de ce film qui aurait choqué les spectateurs ?
Là encore une fois, les artistes ne sont pas forcément ceux qui sont le mieux placés pour comprendre ces raisons de l'insuccès, notamment dans le cinéma, et notamment dans le cinéma américain. Très souvent, pour un cinéaste hollywoodien, un mauvais film, c'est un film qui n'a pas marché. Alors que bon, c'est, je me rappelle Cukor parlant de Sylvia Scarlett en disant ne m'en parlez pas. Enfin, il a toujours tenu ça, il a dit ça. Danny Skoreki à Hollywood, il l'a redit à Paris quand il était venu. Bon, il y a des tas d'exemples comme cela, parce que c'est aussi un art commercial et un insuccès peut-être préjudiciable pour la suite de la carrière. Pour Chaplin, donc, c'est un petit peu différent. Il pouvait encaisser plusieurs fours comme celui de l'opinion publique sans que ce soit tragique pour lui. Mais Je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, y compris même, mais il y a une cohérence dans son propos. Vous avez très judicieusement fait lire le carton initial. Le carton initial est la conséquence des projections test. Il était, comme on le disait, l'homme le plus célèbre du monde. Donc, quand les spectateurs allaient voir un film de Charlie Chaplin, ils allaient voir un film avec Charlot. Et là, donc, ne figurant pas dans le film, il a dû affronter des gens qui ont tout cassé dans les salles de projection. We want Charlie. Enfin, il y a des témoignages absolument ahurissants sur les gens se sentaient volés. Donc, il a déjà senti qu'il y avait un petit problème, d'où la rédaction de ce carton. Qui dit, pour que ce soit bien clair entre vous et moi, je n'apparais pas dans le film.
C'est la première fois qu'il n'apparaît pas dans un de ses films.
C'est la première fois qu'il n'apparaît pas dans un de ses films. Je dirais même que c'est la seule fois. Alors bon, il fait une toute petite apparition en contrebande dans la scène de la gare. Il serait
paraît-il, mais c'est très difficile de l'identifier.
Voilà,
hein.
Ça a l'air d'être assuré pour beaucoup d'historiens. Moi, je suis pas tout à fait convaincu, mais il est probable, disons, que Charlie Chaplin joue le rôle d'un porteur qui lâche une caisse et puis qui passe et qui traverse le champ. Bon. Pourquoi pas, chacun peut le voir. Mais à ce moment-là, il sous-titre son film, il lui donne un genre, « Drama of Fate », donc un drame du destin. Et on effectivement, donc c'est ce qui est en jeu dans le film.
Oui, la notion de destin revient très souvent dans beaucoup de cartons d'ailleurs qui apparaissent
oui,
au long
absolument.
Du film.
Oui, absolument. Donc le destin n'existe pas dans la vie. Les philosophes le savent, mais on ne peut pas concevoir une œuvre d'art sans destin depuis Sophocle. Hein. Et c'est ou jusqu'à Stendhal ou tout ce que vous voulez. Et cette façon de mettre en scène le destin est particulièrement attachante dans l'opinion publique. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Chaplin, c'est qu'il a vraiment... Il a cherché les causes de l'insuccès, donc c'est parce qu'il ne joue pas, c'est parce que c'est un film sérieux, c'est ce qu'il revendique également dans ce carton, et c'est parce que c'est un film donc réellement tout uniment dramatique si on l'écoutait. Or, ce n'est pas vrai. Le film n'est pas simplement un drame. Tout comme L'Aurore de Murnau, un des plus grands films de l'histoire du cinéma, qui comporte une partie comédie, avec même une partie de comédie du remariage dans la ville, quand le couple se retrouve après la tentative avortée d'assassinat. On a un moment beaucoup plus détendu, et c'est le cœur du film. Mais le film reste réellement un drame, même s'il finit bien. Alors que le film de Chaplin est beaucoup plus intéressant, enfin intéressant que L'Aurore, je m'entends, mais il est beaucoup plus sophistiqué dans sa conception, puisque il y a donc au début du film un jeune homme et une jeune femme qui s'aiment, la génération des parents s'y oppose, la première apparition du père de la jeune femme est une ombre immense
précédée par son
ombre,
oui toujours la figure
on est
du
en
père.
Province, on est en France, c'est lugubre, c'est triste, le jeune homme et la jeune femme veulent quitter cette province pour partir à Paris, et là on est dans du mélodrame. Il décide de partir, mais quand le jeune homme veut quitter sa famille, son père a une attaque et elle est à la gare, lui est chez lui, il se téléphone et quand il dit qu'ils doivent retarder leur départ, elle est comme appelé par son destin, justement.
Ce qui est filmé de manière très intéressante, il y a quand même un mot sur la réalisation
oui,
de Chaplin
absolument.
Lui-même, puisqu'au moment où elle entend son amant lui dire qu'il ne peut pas la rejoindre, puisque son père, mais il n'a pas le temps de lui dire, puisque son père est sur le point de mourir, voire déjà mort, elle, dépitée, fait tomber le combiné du téléphone, se retourne, et là, Chaplin filme, non pas l'entrée du train en gare, mais les lumières du train qui défilent sur le vêtement de la jeune fille. Et donc le spectateur regarde la fille et du côté du train, et on déduit de là qu'elle va monter dans ce train.
Voilà. Alors là, on a une séquence qui a bouleversé. Vous avez évoqué le succès critique du film. Ça, c'est une séquence qui est une séquence majeure dans l'histoire et l'esthétique du cinéma. Les grands critiques français, anglais, américains, les théoriciens soviétiques, auteurs de Poetica Kino, les formalistes russes, comme on les appelle, Viktor Shklovsky, dont on vient d'ailleurs d'éditer un texte sur Chaplin dans le dernier numéro de Trafic, très intéressant, avec des textes de Fabrice Revaud, de Marco Suzal, il y a un ensemble chaplinien passionnant. Shklovsky, Tinianov, Eichenbaum, tous ces gens-là en Union soviétique se disent, voilà, là, il y a un véritable progrès dans l'écriture cinématographique. Ce progrès tient au montage, à la rapidité, à la manière dont le contact s'effectue sans qu'on ait réellement besoin de le montrer. Donc, c'est-à-dire, c'est ce que Deleuze, qui a repris toutes ces analyse à la fin de l'image mouvement, il trouve que ce sont des images, pour lui c'est la secondéité persienne, c'est-à-ire le fait qu'il y ait
un indice. Dans le jargon deleuzien, voilà.
Mais tout le monde a repris, c'est une des séquences les plus extraordinaires dans l'écriture, effectivement, de ce que Deleuze appelait la petite forme, il a raison. Là, on a justement une sorte d'indice, c'est-à-dire que le train n'est pas montré, on ne voit que son reflet, comme la fumée qui indique le feu. Et donc, on gagne énormément de temps, de rapidité, on comprend. Et ce type d'écriture, il va l'utiliser dans la comédie, dans la deuxième partie du film, à certains moments également. Quand c'est des types d'images raisonnement. Quand le jeune homme va retrouver la Marie, donc Woman of Paris, Edna, par Vaillant, il doit faire son portrait, il est reçu dans un appartement particulièrement luxueux, donc on devine qu'il se pose des questions. Est-ce que c'est une femme entretenue? Est-ce qu'il y a un homme? Et il y a juste une... Comment est-ce que cela va être montré au personnage et comment est-ce que le spectateur va comprendre qu'il a compris en deux secondes? Une servante un peu maladroite ouvre un tiroir et un col d'homme tombe par terre, raccord sur le regard, insère sur le col, on retrouve le regard du jeune peintre, il est accablé, il a compris qu'il y avait un homme et que Marie était une femme entretenue.
L'image-action semble avoir pris conscience de soi, particulièrement dans l'opinion publique. Le film dont Chaplin fut l'auteur sans être acteur, ou bien dans toute l'œuvre de Lubitsch. Une action, ou un équivalent d'action, un geste simple, dévoile une situation qui n'est pas donnée. La situation est donc conclue de l'action, par inférence ou par raisonnement relativement complexe. Puisque la situation n'est pas donnée pour elle-même, l'indice est ici indice de manque, implique un trou dans le récit et correspond au premier sens du mot « ellipse ». Par exemple, dans l'opinion publique, Chaplin insistait sur le trou d'une année que rien ne venait combler, mais que l'on concluait de nouveaux comportements et de l'habillement de l'héroïne, devenue maîtresse d'un homme riche. Même les visages n'avaient pas seulement une valeur expressive ou affective autonome, mais ne donnaient pas non plus la simple indication de ce qui se prolongeait hors champ. Ils fonctionnaient vraiment comme indice d'une situation globale. Ainsi, l'image célèbre du train qu'on ne voit arriver que par les lumières qui passent sur le visage de la femme, ou les images érotiques dont les assistants nous donnent seulement l'inférence. Dans l'opinion publique, beaucoup d'indices du premier type font penser que l'héroïne n'est pas très attachée à son amoureux. En revanche, elle a avec son amant riche un rapport plus équivoque, qui fait que le spectateur ne cessera jamais de se demander « Lui est-elle attachée par la fortune, le luxe ?» ou bien l'aime-t-elle d'un amour bien plus compréhensif et profond. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, et la bonne bande originale du film de Chaplin, L'opinion publique, est sortie en 1923 et dont nous parlons aujourd'hui à l'occasion de cette première émission consacrée au cinéaste, acteur, philosophe Charlie Chaplin, en la compagnie de Marc Cerisuello aujourd'hui, qui est professeur de cinéma et d'esthétique à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Marc Cerisuello, à qui l'on doit notamment Fondues enchaînées, des essais de poétique du cinéma, paru au Seuil en 2012, dont le second volume est à paraître bientôt, il sera intitulé « Drôle de genre ». Et qui va être également l'auteur d'un livre qui sortira au printemps prochain, « Lettres à Wes Anderson », qui sera disponible aux éditions Capricci. Cette ellipse dont parle Deleuze dans le texte de l'image mouvement que je viens de lire et que vous évoquiez à l'instant, Marc Cerisuello, est figurée de manière sonore. Ce qui est bien commode à la radio, c'est que nous sommes en train d'écouter le second thème, disons, principal du film, qui commence un an après, le carton nous indique, un an plus tard, donc la femme a pris le train, l'homme est resté en province, un an plus tard, dans la ville magique de Paris, la roue de la fortune y tourne vite et les femmes y jouent leur destinée. Le mot est lancé et là apparaît donc le personnage féminin, sublime, riche, de toute évidence, apparemment entretenu, nous laisse entendre les indices sur l'image. Et le ton change, nous sommes dans ce qui semble être une forme de comédie.
Ah mais nous sommes dans la comédie, donc la manière qu'avait Chaplin d'en parler, il avait tout à fait raison sur l'ensemble de son projet, sur sa carrière, mais quand on regarde le film, là on a un grand moment de comédie qui dure. Donc il y a une sorte de, non pas de mélange des genres, c'est une expression qui est un petit peu délicate, qui est parfois d'ailleurs, qui ne veut pas dire grand-chose, c'est une sorte de non-sens. Non, il y a une partition des genres.
Ouais.
Il y a d'abord du mélodrame, puis de la comédie, puis là, pour le coup, un mélange des deux, mais simplement dans la troisième partie du film. Donc, le drame domine, mais à l'intérieur de ce drame, il y a encore des séquences de comédie à la fin du film. Et c'est donc ça, c'est un point qui me semble essentiel pour comprendre l'écriture du film, qui est, vous l'avez signalé, donc il y a deux thèmes musicaux. Donc dans tous les grands films, il y a deux thèmes musicaux, un élégiaque ou charmant ou gai et un plus tragique, plus sombre. C'est tout à fait le cas dans la musique de l'opinion publique, avec donc toute cette première partie qui est réellement flippante. On déteste la province française, on déteste les parents, on déteste cette emprise sur la jeunesse. Et dès que l'on arrive à Paris, effectivement, il y a ce thème gay qui passe en valse assez régulièrement. Et on est ailleurs, on est dans un autre genre. Et là, ce qui est intéressant, ce qui a été dit dans le texte de Deleuze, mais on peut encore le monter, c'est-à-dire qu'il y a une double ellipse. Il y a l'ellipse de la représentation du train, comme on l'a dit, on ne voit que les reflets sur le quai et sur le corps et le visage de l'héroïne. Et immédiatement, elle est appelée réellement par son destin. Et alors là, il y a des questions de philosophie morale tout à fait intéressantes. Là. Est-ce que c'est du free will ? Est-ce qu'il y a une agentivité ?
Du libre arbitre ?
Est-ce que c'est du libre arbitre ? Est-ce que c'est du choix ? Donc là, on peut se poser toute une série de questions.
Pourquoi Chaplin insiste-t-il sur la notion de destinée ? Est-ce pour renforcer le caractère dramatique de l'histoire ?
C'est certainement pour renforcer le caractère dramatique de l'histoire, mais c'est aussi parce que la destinée donne drama, action, mouvement. Donc il y a cette idée réellement de projection toujours vers l'avant et de plus en plus rapidement. Et là, à l'ellipse visuelle correspond l'ellipse temporelle. Je dirais en un raccord, en un fondu. On passe non seulement, donc on a cette ellipse visuelle, mais après il y a immédiatement après une ellipse temporelle d'un an. Et le ton change et on se retrouve dans un grand restaurant. Et là, on est en écriture de comédie parce que l'écriture de la comédie existait dans le muet. On a tendance à croire que le burlesque était le genre, on peut dire, dominant du muet, alors qu'il est devenu le genre dominé du parlant. Pour un Jerry Lewis ou un Jacques Tati, il y a des dizaines de plus ou moins bonnes comédies américaines ou internationales. L'idée de la comédie existait vraiment dans le cinéma muet. Les plus grands succès hollywoodiens étaient souvent des comédies, c'est-à-dire des comédies qui étaient déjà d'ailleurs des comédies du remariage, les comédies de Cécile B. 2000 avec Gloria Swanson à la fin des années 10 et au début des années 20, qui s'appellent Don't Change Your Wife, Why Change Your Husband, Male and Female, enfin, et qui étaient des comédies de remariage en fait, et des comédies salle de bain, parce que Gloria Swanson prenait souvent un bain, ça émoustillait, c'était des succès absolument considérables, c'était pas du burlesque, hein, même si Gloria Swanson savait très bien imiter Charlie Chaplin chez Alan Dwan ou chez Billy Wilder, mais ça c'est une autre histoire. Là, donc, cette écriture de la comédie apparaît dès le début par des rimes croisées qui vont apparaître avec des cartons. On voit apparaître un couple d'une vieille dame avec un gigolo dans le grand restaurant. C'est l'ouverture du moment parisien. On voit très bien que ce gigolo est désagréable et vraiment se traîne avec sa rombière. Et on voit apparaître ensuite le couple formé par Adolphe Manjou, donc Pierre Revel et Marie Sinclair.
Et c'est parce que le plan précédent, leur apparition, donne à voir un gigolo et une
bien
femme,
sûr.
On en déduit que Marie est une femme entretenue.
On fait vraiment confiance aux spectateurs. Le spectateur est là et doit et comprend. Ce sont des rimes croisées et Chaplin les prend comme un minimum par la main, puisque c'est là qu'il y a un croisement d'écriture. La jeune femme demande quelle est cette dame, une des plus riches rombières de Paris, lui dit son ami, et inversement, le gigolo demande à cette dame qui est cet homme, un des plus riche célibataire de Paris. Donc il y a répétition, inversion, rime croisée, c'est l'écriture de la comédie, c'est l'écriture de Lubitsch, c'est l'écriture de la comédie cinématographique jusqu'à Billy Wilder et après.
Nothing can transcend human personality. You know, a story is all secondary, is purely a background in which this precious thing called personality functions. That's my concept of pictures. The idea of getting somebody that has personality. Distinction, somebody that the people can look at and identify themselves with.
Voilà pour ceux qui soupçonneraient Chaplin d'être meilleur acteur que réalisateur. Et bien ce que nous sommes en train de dire, Marc Serizuelo, sur cette espèce de grammaire visuelle qui fait que le comique naît du montage, de la manière de filmer, de l'utilisation de la bande sonore également, plus que les dialogues évidemment, puisqu'il n'y en a pas, montre bien qu'ici il y a un savoir-faire hors pair de la réalisation, du travail même de réalisateur. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on vient d'entendre la voix de Chaplin lui-même, qui exprimait sa conception des films, disant que pour lui, finalement, l'histoire était assez secondaire. C'est un simple décor pour cette chose précieuse qu'est la personnalité. Ce qui montre bien, là encore, la personnalité, ce n'est pas visuel. La personnalité ne peut être traduite que dans la manière de filmer.
Bien évidemment, c'est ce que les formalistes russes avaient vu tout de suite. Chaplin leur montrait que le cinéma ne pouvait pas être déconnecté, n'était pas simplement un art de l'image. Hein, donc il révélait vraiment toute autre chose, et surtout dans le muet. Donc c'est ça qui était, et notamment avec cet exemple de l'opinion publique, encore une fois, qui a fait fortune un peu partout dans le monde de la réflexion sur le cinéma, et notamment en Union soviétique à ce moment-là. Et cette idée de la personnalité, on la trouve dans l'histoire. Parce que c'est une femme intéressante, Marie. Elle a su saisir sa chance. Elle a laissé de côté donc son amant. Et elle a fait la connaissance d'un riche célibataire qui est un véritable dandy. À un moment donné, un carton dit on montre Pierre Revel à son bureau, et en fait il regarde les cours de la bourse depuis son lit. Donc c'est très le personnage de celui qui ne veut pas être réellement complètement amoureux, mais qui aime quand même Marie. Et l'histoire est tout à fait intéressante, parce que sa personnalité à lui, et là encore, le texte de Deleuze en parlait bien, elle aime Marie, elle aime bien ce garçon, ce riche célibataire. Il est beaucoup plus marrant que l'autre, qui, il faut le dire, qui est complètement sinistre. Et c'est montré comme cela, de la manière de Chaplin. En plus, il a le brassard noir qui marque le deuil.
Oui, parce qu'elle va le retrouver quand même, ce premier amant.
Mais voilà,
il faut le dire. Bon. Parce que vous parlez de brassard noir, donc on est obligé de dire que suite à un énorme quiproquo, elle va se retrouver nez à nez avec ce Jean, son premier amant, et donc le passé va ressurgir. Hein,
le passé va ressurgir, et c'est là que le drame se noue. Mais quand on parle de personnalité, la personnalité de ce premier amour n'est intéressante que parce que c'est le premier amour. En tant que tel, il est chaque spectateur est troublé par le film, parce que l'homme riche, apparemment peu sentimental, est beaucoup plus intéressant d'une certaine manière pour
et
elle.
C'est ça. Et on croit plus au couple Marie-Pierre Revel que Marie et Jean. C'est-à-dire que finalement, le spectateur penche du côté de la moralité ou de l'immoralité.
Absolument, absolument. C'est très fort de la part de Chaplin, qui est quelqu'un qui connaît bien tout cela, parce qu'il a. D'abord, il aimait beaucoup les femmes, comme on le sait. Et c'est quelqu'un qui était un peu comme, disons, pour aller vite, comme Victor Hugo ou Georges Simenon. Et qui a été très malheureux lors de ses deux premiers mariages, et qui après a véritablement connu l'amour de, au moins deux fois, disons, avec Paulette Goddard et surtout Una Chaplin. Mais la façon dont il a une connaissance intime de la psychologie féminine, il voit ce qu'une femme peu apprécié chez un homme, et effectivement, là, ce premier amour est très très bien. Ce qui est montré dans la personnalité du premier amour, c'est qu'il reste dépendant des traditions. Il reste dépendant de sa mère, et c'est parce qu'il dit à sa mère que finalement, après avoir proposé à Marie de l'épouser, et que sa mère n'est pas d'accord, et comme elle lui fait une sorte de chantage, il lui dit deux fois, mais non, je ne l'épouserai pas, fais-moi quoi. Et la deuxième fois, Marie est arrivée, elle est hors champ, et là encore, hein, ça, c'est une écriture absolument splendide, et le hors champ du muet, là, et elle a bien entendu cette phrase qui pousse le drame vers sa résolution et la disparition de Jean.
Ce qui fait osciller le film en permanence entre le drame et la comédie à travers les deux personnages que sont le premier amant Jean et l'amant, disons, actuel Pierre. Et cette oscillation, c'est là sans doute tout le génie de Chaplin, c'est qu'il ne tranche jamais, qu'il n'est pas dans le manichéisme. Et j'en veux pour preuve certaines scènes que nous sommes obligés de décrire parce qu'elles sont visuelles, mais notamment alors que Marie décide de quitter Pierre, puisque celui-ci va épouser quelqu'un d'autre de toute façon, qui flirte avec sa propre copine, et qu'en plus Jean vient de la redemander en mariage, elle se dit bon bah je vais faire un choix de vie, là pour le coup vous posiez la question du libre arbitre, je vais quitter Pierre et épouser Jean. Et alors qu'elle essaye de quitter Pierre, elle se rend bien compte que c'est difficile, elle jette un collier de perles
que celui-ci
lui a offert.
C'est une grande scène là encore.
Le collier valdingue par la fenêtre, et quand elle s'aperçoit en se penchant qu'un clochard s'en empare et part avec, là, elle se dit zut, je voulais pas du tout me débarrasser de ce collier, et elle lui court après. Pierre est hilar à l'appartement, on le voit vraiment, il a un visage incroyable, et elle-même est dans une ambiguïté, on était dans le drame et tout d'un coup on rebascule vers la comédie.
Oui, la séquence est bien présentée comme l'hésitation de Marie. Donc on parle de l'hésitation de Marie et on la montre. Et elle court après ce clochard, elle lui reprend le collier, elle est prise de remords, elle revient vers lui d'une petite pièce. Comme elle a couru, elle a cassé un talon le talon d'une de ses chaussures, et elle court dans la rue en claudiquant, et elle est poursuivie par un chien. On est dans un cadrage complètement chaplinien, chaplinesque là pour le coup, et elle passe même devant un un policier. On a vraiment toute la structure là d'un moment de Chaplin étonnant. De la même manière, un peu plus tard dans le film, elle est massée. Et elle est donc sur une table de massage et il y a un discours tout à fait amusant entre elle et une de ses amies et toutes ces mondanités apparaissent vues au travers du regard de cette femme simple qui est la masseuse et en fait c'est une persona de Chaplin. Elle joue exactement comme jouerait Chaplin s'il était masseur. Donc on voit très très bien que Chaplin, au sein même de ce film sérieux, non seulement écrit des moments de comédie et non des moindres, mais en plus il se met dans le film avec donc la fin de la séquence du collier d'une part et puis cette masseuse qui est une sorte de réincarnation de Chaplin qui est là avec un jeu de mime tout à fait étonnant et des mimiques sur le visage qui désapprouvent effectivement pour le coup la moralité de ces femmes du monde.
On parlait de l'importance de la destinée chez Chaplin et en effet dans beaucoup de cartons revient ce terme de destinée et de destin et pourtant le film se structure autour de trois gros, disons, malentendus. Des concours de circonstances qui font que les gens ne se comprennent pas et vont être conduits à des choix de vie très importants. On a évoqué la scène initiale où Marie ne comprend pas que le père de Jean est mort et donc du coup prend le train et le quitte pour aller à Paris. Le moment où elle retrouve Jean, c'est aussi un malentendu. Elle va retrouver une de ses amies qui a une soirée très festive et elle a son amie au téléphone qui lui dit oui, c'est au troisième étage, porte de droite ou de gauche, je me souviens plus. Marie arrive, sonne à la mauvaise porte et là qui ouvre la porte, c'est Jean.
Ouais.
Donc ce sera les retrouvailles. Et c'est ce mélange entre un destin assez rigide qui laisse penser qu'on est vers la tragédie et les malentendus, les quiproquos, le hasard qui fait qu'on peut aller vers la comédie donne vraiment à entendre le fond, disons, très, très fort, très puissant intellectuellement de ce film de Chaplin.
Et toute la fin mélange ces deux lignes mélodiques avec Paulette, l'amie qui fait croire que désormais elle sort avec Pierre, ce qui n'est pas vrai, parce qu'en fait, hein, je corrige ce qui a été dit, mais Pierre reste fidèle à Marie, mais là encore, il y avait des sources de malentendus possibles, c'est encore de l'écriture de la comédie, du mélodrame aussi, mais quand même essentiellement de la comédie. On voit que ces lignes mélodiques se mélangent, il y a une scène où Paulette est défaite, on dirait ça au 18e, et finalement, là, on retrouve la véritable ligne de la tragédie avec le suicide du premier amant dans un grand restaurant. On a toutes les lignes convergent. C'était la première scène de parisienne, parce que la comédie sophistiquée, elle est sophistiquée aussi parce qu'on montre l'Europe. C'est le propre des films de Lubitsch. À une exception près, tous les films de Lubitsch se déroulent en Europe. La sophistication n'est pas simplement dans l'écriture de la comédie, qui est à peu près la même, mais elle est parce qu'on montre justement Paris, Londres, Budapest, Vienne. Et ce grand restaurant qui était le signe justement de la richesse, de la comédie, du plaisir, et à la fin du film, donc Convergence, c'est le moment de la tragédie, puisque c'est là qu'il se suicide. Enfin, c'est un autre restaurant, mais peu importe.
Vous avez dit, il se suicide, on ne sait pas qui, tant mieux pour ceux qui n'ont pas vu le film, on n'aura pas gâché la fin. Juste un mot, justement, sans révéler la fin, ce qui est formidable, c'est que le film se termine sur une ouverture, justement. C'est que là, on ne choisit pas tragédie ou comédie.
Enfin, la fin est morale. C'est une fin...
Mais pas moralisatrice.
Elle est morale, à tendance moralisante, mais pas moralisatrice. Non. Elle décide de s'occuper d'orphelins avec celle qui aurait pu être sa belle-mère, donc la mère de Jean. Ça, c'est un point. Donc il y a une fin morale, une sorte de rachat de cette vie passée de femme du monde, de forme entretenue, avec les conséquences que cela a pu avoir. Donc il y a une fin réellement moralisante. Et en même temps, on a une dernière rime. Pierre demande à un de ses collaborateurs ce qu'est devenu Marie Sinclair. Ils sont sur une magnifique voiture sur une route de campagne et sur cette même route, Marie est sur une charrette de bohémiens et là encore une fois, ultime croisement entre la, la vie passée, la vie de luxe et la vie désormais morale qui où on est dans le care, on s'occupe effectivement de ces jeunes orphelins avec belle maman. Et c'est beaucoup de gens ont pu discuter sur le sentimentalisme prétendu des œuvres de Chaplin. Je trouve que c'est tout à fait injuste, en fait, hein, dans la manière de concevoir le talent spécifique de Chaplin. Il met du sentiment au sein de la comédie. Ça, c'est toujours son cas.
Le dernier carton du film, le temps cicatrise les plaies et l'expérience enseigne que c'est en se consacrant à autrui que l'on trouve le bonheur.
Only a tramp was Lazarus' sad fate. He who lay down at the rich man's gate. He begged for the crumbs from the rich man to He was only a tramp found dead on the street. He was some mother's darling. He was some mother's son. Once he was fair and once he was young.
A Tramp on the Street, Hank Williams, pour terminer cette émission. Alors, c'est pas Chaplin lui-même, mais je tiens à signaler, puisqu'on a beaucoup parlé de la musique de Chaplin, que c'est lui qui composait ses musiques, même si vous me disiez hors antenne qu'il ne connaissait pas le solfège, il se faisait beaucoup aider, mais il était quand même l'auteur de ses musiques également. La suite pour demain. Pour l'instant, vous écoutez France Culture, Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, il est 10h51. Encore 2 minutes, papillon, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie.
Why, you wanna hear something? Don't know how to explain.
Ils disent qu'il n'est pas mort.
Bon, après, c'est simple. Tête à queue, il vient rebondir sur moi, et puis le machin, le fossé. Les deux roues dedans. Il avait beau essayer, rien à faire. Alors hop, tonneau, la glissade, et le pommier, quoi.
Dans Les Arts et les Dieux, le philosophe Alain décrit l'accident comme, je cite, « un événement qui apparaît comme imprévisible et improbable ». Par exemple, une voiture au passage à niveau juste en même temps que le train ou un obus qui enlève la tête de l'aviateur. Alors l'accident, c'est ce qui n'a donc pas de cause, c'est ce qui arrive dans l'instant. Mais que dire des traces que laisse un accident et qui s'installent dans le temps? Que dire des blessures, des cicatrices, du handicap qui marquent le corps et l'individu? Bien, dans cet essai de Peggy Tessier sur le corps accidenté, qui s'inscrit dans ce qu'on appelle au sens large la philosophie du corps, on retrouve la perspective de textes comme ceux de Claire Marin sur la maladie ou d'Éric Fiat sur l'incarnation, à savoir tout un questionnement sur le bouleversement identitaire qu'implique la transformation du corps. À ceci près que Peggy Tessier tente ici, quant à elle, d'élucider l'essence de l'accident, ce qui par essence justement n'est pas saisissable, car toujours imprévu, toujours de l'ordre du contingent. Voilà donc l'enjeu de l'accident, le penser à partir de ses effets sans pouvoir l'assigner à une cause. Si Alain disait que l'accident apparaît comme imprévisible, c'est peut-être alors sur ce terme « apparaître » qu'il faut s'arrêter. D'abord, si l'accident apparaît imprévisible, on peut quand même tenter de l'inscrire dans une continuité, non pas lui donner une explication, mais lui donner un sens, après coup, comme le sujet qui, de cet événement malheureux, va faire une bifurcation existentielle. Et puis ensuite, on peut aussi s'interroger sur ce que fait apparaître l'accident. Et c'est peut-être cette étrangeté à soi que porte chacun en lui, une altérité qui a l'aspect de l'altération, mais qui ne nous fige jamais.
Les bifurcations existentielles, il en a été question dans l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup Géraldine. Le titre du livre ?
Le corps accidenté, c'est de Peggy Tessier aux éditions PUF.
Merci Géraldine et merci Marc Serizuelo pour cette émission, cette première émission consacrée à Chaplin. Je rappelle, vous êtes professeur de cinéma et d'esthétique à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Que de vous, on peut lire Fondus enchaînés, essais de poétique du cinéma. Le deuxième volume sera à paraître l'an prochain, toujours au Seuil. Et puis, vous allez publier au printemps prochain aux éditions Capricci une lettre à Wes Anderson. On a hâte de vous lire. Chers auditeurs, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à Chaplin. Demain, la critique sociale d'un infatigable, ce sera le philosophe Guillaume Leblanc qui viendra vous en parler. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture, page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez non seulement la réécouter, mais également la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et l'équipe des Nouveaux Chemins vous donne également rendez-vous sur leur compte Twitter et Facebook où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour.